Alfa. Rádio Alfa. A rádio que nos liga. Tempestade 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado. Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Alors Antonin, Clarisse, Esteban et Liliana sont de retour, comment ça va?
Ça va super.
Ça va bien, merci.
Ça va super en régie aujourd'hui pour ma part.
Moi quasiment j'étais pas venu, parce que j'étais venu il y a un mois et plus... Ça fait plaisir de retour.
Mais on se sent seul en régie, je trouve. C'est bizarre.
C'est pas grave, tu es quand même là avec nous. On te voit et tu vas nous faire une belle rubrique tout à l'heure aussi. Et aujourd'hui, au programme Culture, Sport, Musique et Art, puisque nous recevons l'influenceuse d'art et étudiante en marché de l'art, Victoria Alves. Comment ça va?
Ça va et vous?
Pas trop stressée?
Un petit peu, c'est une première pour moi, mais c'est trop cool.
Non, on est trop contents de te recevoir. Ça fait un moment qu'on entend parler de toi, on a entendu parler de ton exposition, parce que tu es étudiante en marché de l'art et tu es aussi influenceuse en art contemporain sur les réseaux sociaux. Et tu as réalisé donc ta première exposition Trésor en liberté en avril dernier. Liliana nous en avait beaucoup parlé, mais restez avec nous pour en savoir plus. On en parle au moment de l'interview à partir de 14h45. Et en attendant, je vous laisse avec le dernier single de Salvador Sobral, Flor do Recomeço.
Dançamos no silêncio, a música era delírio, na alma flor do lírio, queimava esse incenso, desejo era imenso, mas um mar tranquilo. Você me deu aquilo e eu perdi o senso. Te beijei, me entreguei e te dei ali antes das seis. A flor do recomeço. O mantra da saliva no grão aberto em gozo, papoulas sem repouso, em chama, chuva e chiva, a língua em fogo vibra, mistérios do idioma. Vem outra vez e coma, banquete que te sirva. Te beijei, me entreguei e te dei ali antes das seis. Do infinito, um sussurro, um grito de gozo tão belo. Te beijei, me entreguei e te dei. A flor do recomeço. Te beijei, me entreguei ali antes das seis. A flor do recomeço.
C'est le moment de l'événement de la semaine sur Themestade de Chponton. Et Liana, je crois que tu as deux événements pour nous.
Exactement, Julie, parce que jeudi, tu as assisté au vernissage de l'exposition Métamorphose Urbana au 84 rue du Temple, dans le 3e arrondissement de Paris. Pour rappel, cette exposition de Frédéric Bourret mettait en avant une trentaine d'artistes portugais ou luso-descendants. Et le concept, c'était de reprendre les photos de Paris de Frédéric, mais de les reprendre à leur sauce. Et je voulais te demander, du coup, qu'est-ce que t'en avais pensé?
Bah, écoute, moi, j'ai trouvé que la galerie, je sais pas si tu es déjà allée à cette galerie Victoria.
Non, ça me dit rien.
Je l'ai trouvé assez sympa. En fait, c'était bizarre, on va dire, parce qu'il y avait trois salles différentes. Donc, deux qui étaient au rez-de-chaussée et une en sous-sol. Où il faisait très bon d'ailleurs dans le sol, il y avait la clim, c'était super, parce que sinon il faisait quand même très chaud à Paris. Mais du coup, ouais, il y avait vraiment des œuvres un peu partout, donc c'était sympa, on se baladait, on voyait plein d'œuvres. D'ailleurs, j'ai pu voir plusieurs artistes là-bas que je connaissais déjà, comme Glaçon, L'Empreinte Jauvé, Nathalie Afonso, et j'ai vu même des gens du cinéma, parce qu'il y avait Thomas Brazet qui est déjà venu sur Themestade, et Jacqueline Corrado, que tout le monde connaît pour la cage dorée. Donc franchement, c'était très cool. Et bien sûr, ce qui était très sympa, c'est qu'on a eu des pastéis de nata de Mantegali.
Ouais, effectivement, ça t'a pas manqué. Et du coup, un autre événement, demain, c'est aussi la fête de la musique. Wouhou. Alors, on n'a pas trouvé beaucoup d'événements luso ou portugais à proprement parler, excepté à l'ambassade, où est organisée la fin du cycle Musicorama de 15h à 19h. Mais même si ce n'est pas un événement purement lusophone que vous vous rendez, vous avez de grandes chances de tomber sur des artistes lusophones un peu partout. Vous avez des événements auxquels vous allez aller demain ?
Personnellement, non.
Non.
J'avais un prévu.
Victoria ?
Moi, j'avais pensé à aller peut-être à Bastille avec une amie, mais bon, c'est pas sûr.
À l'événement Spotify ?
Ouais.
Ouais, moi aussi j'ai deux places pour y aller. Je sais pas encore si je vais y aller parce que c'est quand même de 18h à minuit.
Ouais, c'est.
Et surtout, il va faire très chaud demain.
Ouais.
Donc attention à vous.
Buvez de l'eau.
Bien s'hydrater, ouais. Moi les gars, ma fête de la musique, je vais aller voir Bruno Mars.
Ah, putain, c'est pas mal.
Level.
Ça claque.
C'est pas mal, ouais. Non, moi je pense que. Alors, sur l'événement Spotify, justement, il y a une luso, si jamais, Ronicia, qui est capverdienne. Mais du coup, c'est assez spécial parce qu'elle va pas chanter ses titres. Elle va faire un DJ set.
Ah, ok.
Ouais. La majorité des artistes en fait de l'événement Spotify, ils vont faire des DJ sets même s'ils sont pas DJ à la base. Et il y a que R'n Boy qui va vraiment chanter et faire ses titres, quoi. Voilà. Donc ça peut être sympa à voir aussi.
Ouais.
Sinon j'ai vu que le youtubeur Raska il organisait un truc aussi dans le 5e, si jamais. Mais j'ai pas vu d'artiste luso par contre.
Bon, on va chercher quand même. En tout cas, peu importe l'événement auquel vous allez, faites attention à vous, surtout à Paris. Prenez de l'eau avec vous. La température seront très élevées et il risque d'avoir beaucoup de monde dans les rues, donc restez bien au frais, hydratez-vous et ventilez-vous autant que possible.
Merci beaucoup Liana. D'ici 5 minutes, Sophie nous présentera Qualypso et Qualair. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le dernier single de Bruno Berl sorti jeudi. Il fera partie de son album Sem Fronteiras qui sortira le 10 juillet. Tout de suite, Não Posso Viver Sem Você sur Radio Alpha.
Nem pensei mergulhar pra entender a noite e deu pra ver toda a falta que você me fez. O melhor da vida, eu sei. Não quero mais ver você assim. Olha, perco demais. Não volte a viver longe de mim. Quero ir com você. Rompendo a noite a encontrar, ilumina seu olhar, você e eu. Sobrou momentos seus, é você voltar a fim e ver a mim. Volta outra vez e sei. As estrelas em paz. Até você voltar pra mim. Você volta pra mim. E a noite vem dançando e você me vê. E é ainda que eu acreditei. Yeah. Não posso viver sem você.
las palabras al viento entregaronse amor. Posso viver sem você.
Qual é ela?
Com a Sophie.
Preparados para adivinhar quem é o nosso mistério lusófono de hoje?
Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour Thémestade 2.1 et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Qual é a pessoa? Qual é ela? Avec Sophie.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme, mais plus que ça. C'est quelqu'un qui a quand même sauvé des milliers de vies, un homme juste. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui connaissent son nom. Ambiance, quoi. Cet homme est né en 1885 dans une famille nombreuse au Portugal. Et a priori, rien ne le destinait vraiment à rentrer dans l'histoire. Il a fait des études de droit, il a fondé une très, très grande famille, puisqu'il a eu non pas 5, non pas 10, mais 14 enfants quand même, avant d'entamer une carrière dans la diplomatie. Au fur et à mesure des années, il va du coup représenter son pays, en l'occurrence le Portugal, dans plusieurs endroits. Et en gros, lui, son boulot, c'est juste de représenter son gouvernement à l'étranger, de suivre les règles. Jusque-là, vous me direz, rien d'extraordinaire. Mais parfois, toc toc toc, l'histoire frappe à votre porte. Et là, vous dites, mais de quoi elle parle ? Bon, je vous plante le décor. On est en France, en juin 1940. Et a priori, si vous avez suivi vos cours d'histoire, vous vous doutez que là, on ne vit pas les meilleures heures de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe entre 1939 et 1945 ? La Deuxième Guerre mondiale, effectivement. Du coup, moment où des milliers de personnes cherchent à fuir l'avancée des troupes allemandes. Et là, vous me direz, mais c'est quoi le rapport entre le Portugal, qui en plus est censé être neutre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et la France? Et vous aurez pas tort, effectivement le Portugal il était neutre. Mais être neutre, ça ne veut pas forcément dire que tu vas ouvrir tes frontières à tout le monde. Et en l'occurrence, en 1939, le gouvernement portugais avait envoyé au consulat une petite directive appelée Circular 14 qui limitait l'attribution des visas à certaines catégories de personnes considérées comme, entre gros guillemets, à risque, personnes qui pourraient devenir des réfugiés permanents en fait. Et ces personnes, c'était les réfugiés politiques, les juifs expulsés ou sans nationalité, les apatrides, les personnes fuyant les régimes autoritaires et les personnes dont la nationalité était contestée. Donc, du coup, vous vous doutez que le nombre de visas attribués en cette période devait rester très limité. Et là, on voyage toujours. On se trouve à Bordeaux, devant le consulat. Et bien sûr, la foule attend. Les gens veulent leur visa, les gens veulent partir, ils attendent parce qu'ils savent qu'ils ont tout perdu et que s'ils restent, bah, ils iront en prison ou pire encore. Donc dans ce bâtiment, l'homme en question doit prendre une décision. Cet homme, c'est donc le consul du Portugal en France. J'ai vraiment très envie de savoir si il y en a qui l'ont parmi vous, mais vraiment très envie. Du coup, comme je vous disais, son gouvernement lui a donné un ordre clair, ne pas délivrer de visa à ces catégories de réfugiés. Et là, il se trouve face à un choix, une décision. Que faire ? Est-ce qu'il doit suivre les ordres ou plutôt suivre sa conscience ? Et là, il voit toutes les familles qui attendent et toutes ces personnes désespérées. Il dit, je fais quoi ? Est-ce que je suis ma conscience ? Est-ce que je suis les ordres ? Et pendant plusieurs jours, vous vous le doutez, il a signé énormément de documents, un visa après l'autre, des centaines, des milliers. Il y a de plus en plus de gens qui viennent faire la queue, jusque dans la rue même, pour obtenir des visas. Et c'est grâce à lui que bah, des milliers de personnes ont pu traverser la frontière, aller jusqu'au Portugal et échapper à la guerre. Un héros, clairement. Là, vous dites, mais comment c'est possible ? Je ne sais pas encore de qui il s'agit. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Ce geste héroïque, forcément, a un prix. Il rentre au Portugal et il est sanctionné. Sa carrière est finie, il perd son poste et il tombe dans l'oubli. Donc, vous allez me dire, triste fin, n'est-ce pas ? Savoir qu'on a fait tellement pour tellement de personnes et de voir que, en tout cas jusqu'à sa mort, malheureusement, son histoire est restée assez méconnue. Mais de plus en plus, les années ont passé et les témoignages se multiplient. De plus en plus de familles sauvées racontent ce qu'elles doivent à cet homme. Et petit à petit, le monde découvre l'ampleur de son courage. Il y a des rues qui vont commencer à porter son nom, des écoles, etc. etc. Et il y a même des voyages organisés un peu comme des pèlerinages en hommage à cet homme à Bordeaux et dans tout le chemin que parcouraient à l'époque les réfugiés jusqu'au Portugal. Alors, qual é a pessoa, qual é ela ? Il s'agissait d'Aristides de Sousa Mendes, qui était donc, comme je vous le disais, consul portugais à Bordeaux et qui a donc sauvé énormément de réfugiés pendant la Deuxième Guerre mondiale en leur délivrant des visas et du coup en allant contre les ordres du régime de Salazar. J'espère que cette rubrique vous aura plu et j'ai hâte, en tout cas, de savoir ce que vous en avez pensé.
Merci beaucoup, Sophie. Alors, vous l'aviez ou pas ?
Ouais, moi, je l'avais.
J'avais plus son nom, mais je savais qui était cette personne.
Moi, dès les premières phrases. Toi, Victoria, tu connaissais pas ?
Non, je connais. Enfin, l'histoire, au final, j'ai dû déjà lire un article dessus, mais j'avais pas son nom.
En fait, j'ai remarqué ces dernières années que son histoire ressortait beaucoup en France. Mmh. Je pense aussi parce qu'il était consul à Bordeaux. Et moi, j'ai appris très récemment que, en fait, derrière, il a eu une vie de pauvreté immense parce que, du coup, bah, en fait, il avait trahi le régime et du coup, il a été complètement renié et il est mort dans la pauvreté, quoi. Sa femme l'a quitté, enfin, tout, quoi.
Ah ouais.
C'est terrible, en vrai.
Ouais.
Voilà. Merci à Sophie d'avoir mis la lumière sur ce personnage. D'ailleurs, si vous allez à Paris, il me semble qu'il y a une allée. Aristide de Sousa Mendes. Une
promenade, ouais.
Voilà, une promenade, exactement. Et si vous cherchez, il y a un banc qui a été taillé par Glaçon avec un portrait d'Aristide de Sousa Mendes qui n'a pas pu finir puisque la police est arrivée. Voilà. Mais finalement, je pense que c'est un lien assez fort avec l'histoire d'Aristide de Sousa Mendes. En tout cas, restez avec nous.
Aussi, ah, pardon. Il y a une fresque à Montréal de Aristide de Sousa Mendes. Je crois que c'est les descendants à lui qui sont là-bas. Il a été reconnu par la ville de Montréal comme juste parmi les hommes, comme ça.
Juste, ouais. Ouais. Voilà. Incroyable. Bah, merci pour l'info, Antonin. Et en tout cas, restez avec nous. On change de thème. On part en voyage d'ici quelques minutes avec Clarisse dans Destino. Et tout de suite, je vous propose d'écouter une nouveauté lusophone sortie hier, Surtout du groupe Napa.
Tô cansado. Não me apetece dormir, não me apetece ficar mal parado. Só me apetece fugir, sinto-me sem lugar. Quando eu olhar
céu sorriu pra mim. E eu sou tão sortudo, tenho amigos pelo mundo, tenho um porto seguro. Olha para nós, somos tão sortudos, temos um pouco de tudo, sempre encontrando o rumo. Olha para nós, e eu sou tão sortudo.
Vamos a isso.
Com a Clarice,
bora embarcar para o nosso próximo destino.
Tempestade 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para o destino da Clarice.
Portanto, se tem acompanhado as viagens habituais pelo grande ecrã, sabe que já passamos por muitos formatos. Mas hoje queria fazer um formato um bocadinho diferente. Hoje vamos ver que o grande cinema não precisa de 2 horas para nos transmitir muitas emoções. Hoje vamos falar de um filme que dura 14 minutos. Ouviram bem? É uma curta-metragem e o filme chama-se Algumas Coisas que Acontecem ao Lado de um Rio. É a nova curta-metragem do realizador português Daniel Soares e este filme carrega uma das distinções mais raras do cinema mundial. Acabou de representar Portugal na competição oficial de curta-metragens do Festival de Cannes de 2026. A premissa do filme é atualidade. Portanto, imagine-se um grupo de adolescentes num dia de verão à beira de um rio. Eles deixam-se levar pela corrente, mas há um detalhe, estão a jogar. O desafio que estão a fazer é de fingir que estão mortos, tudo para criar conteúdos e captar imagens para as redes sociais. Não é um filme muito feliz hoje, vamos chorar todos, mas pronto, não faz mal. É, portanto, uma encenação da tragédia pela estética do gosto e da partilha rápida. O problema é que quando o jogo se funde com a realidade, todos os jovens voltam, portanto, à superfície para respirar e rir da brincadeira, só que há um deles que não regressa. E o rio leva o corpo desse jovem, a corrente puxou-o para o fundo e ninguém, mas absolutamente ninguém do grupo, se apercebeu do momento do desaparecimento desse jovem. O filme, portanto, começa com esta tragédia e no teatro ou na dança, a representação da morte é feita por vezes de forma muito artística, mas aqui os adolescentes transformam mesmo a morte num espetáculo digital, sem imaginarem a morte no espetáculo, porque a partir desse momento, portanto, do filme, os restantes minutos da curta-metragem transformam-se numa descida de rio silenciosa, enquanto o corpo do jovem vai flutuando à deriva, levado pela água. A câmara de Daniel Soares faz um raio-x à nossa sociedade contemporânea e, portanto, é esse corpo morto. Passa, portanto, por turistas agitados, obcecados em tirar, portanto, fotografias perfeitas ao pôr do sol. Passa também por famílias distraídas com os seus ecrãs e os seus pequenos dramas domésticos. O rio corre, o corpo avança e cada pessoa que cruza aquele caminho está demasiado mergulhado no seu próprio cotidiano para reparar a tragédia que flutua a poucos metros de distância. E isso fez-me um bocadinho uma coisa no coração, porque é verdade que na nossa sociedade estamos sempre tão conectados ao mundo virtual que ficamos desconectados também do mundo real que nos rodeia. E o que gostei com este filme é que fazer cinema em 14 minutos exige-me uma precisão, e Daniel Soares demonstra aqui por que razão saltou para o ecrã em Cannes. Não há tempo para perder com explicações desnecessárias, ele vai mesmo straight to the point. A composição de cada plano, o som da água que contrasta também com o mundo urbano e sobretudo com a frieza que a vida continua a correr ao lado daquela morte, fazem desta curta-metragem um filme artístico, e achei também esse filme poderoso. Para quem, portanto, valoriza a capacidade de uma obra nos fazer questionar sobre o nosso próprio cotidiano, este filme funciona como um espelho que é um bocadinho desconfortável. Ele obriga a perguntar quantas coisas urgentes estão a acontecer, mesmo aqui ao nosso lado, enquanto nós olhamos para baixo, para o ecrã do telemóvel. E este filme fez-me também refletir, porque esta semana tive uma conversa com duas pessoas que amo muito, e há um que está na sala. É que às vezes eu não me apercebo, mas estou mesmo colada ao telefone quando estou com amigas, por exemplo, porque tenho sempre notificações, e só o facto de ver o meu telemóvel eu estou um bocadinho desconectada do mundo real, e eu detesto ser assim, porque prefiro muito mais apreciar o momento presente do que estar sempre distraída com telemóvel ou com notificações. Et du coup, j'avais une question pour vous, parce que je switch en français pour Victoria, mais j'avais une petite question. Vous, votre temps d'écran, il est de combien?
Victoria.
Qu'on rigole un petit peu.
Alors, j'essaie de réduire un peu, mais avant, il était de 9 heures.
On a trouvé pire que moi.
Et maintenant, il est de 6 heures.
Ça va.
Ah, wow.
Et vous?
Moi, franchement, ça dépend des jours, mais... Il y a des jours où je peux être à 10 heures
oh
et d'autres
oh
où je peux être à 6 ou 7, quoi. Mais pour remettre du contexte, j'ai pas cours, hein. Donc,
elle est au chômage.
Voilà, donc, et je travaille beaucoup sur mon téléphone, surtout.
Aussi, mais pour, ça joue. Hein,
pour préparer l'émission, pour
exactement. Ce genre de
choses. Et même les ordis, quand on travaille sur les ordis, etc. Donc...
Ouais, parce que c'est vrai, on parle du téléphone, mais en vrai, on est sur l'ordi quand on n'est pas sur le téléphone.
Ouais,
c'est
ça. Par exemple, tu vois, moi, mon ordi, je pense qu'il suffit quasiment 10 heures par jour actuellement, mais mon téléphone, il écrit 3h09.
Ouais, voilà. Après, ça dépend ce qu'on fait sur le téléphone, mais je suis d'accord que les notifications...
Bah, tu vois, tu les regardes tout le temps.
Oui, c'est ça.
Ça change tout.
Moi, je suis à 5h30 en moyenne. Mais pour me dédouaner un peu, j'ai des transports.
Oui,
bah, moi, ça coûte des transports aussi.
On est d'accord.
Ouais. Ouais.
Bah, maintenant, j'ai un livre dans les transports, mais...
Oui, j'essaye aussi maintenant.
Si j'ai pas autre chose à faire, quoi.
Toi, t'es de combien, Liliana, ton temps d'écran?
Ouais, moi, moyenne 5 heures par jour, parce que, bah, comme j'ai environ 4 heures de transport par jour...
Mais tu m'étonnes.
Bah, avec les podcasts et la musique, bah, ça passe vite.
Ouais.
Mais en soi, je traîne pas beaucoup sur les réseaux, parce que je suis pas... J'ai que Insta.
Bah justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que c'est quoi votre relation avec les réseaux sociaux? Genre, est-ce que vous l'utilisez
Victoria,
beaucoup?
Toi, influenceuse.
C'est sûr que, bah, du coup, oui, moi, vu...
C'est ton travail, quoi.
Bah, enfin. C'est, enfin, ce qui est à côté de mon travail, de mes études, oui, du coup, je passe souvent des heures dessus, mais c'est après pour aussi tout ce qui est les applications aussi de montage où je passe du temps dessus.
Ah, c'est vrai que ça, c'est long de montage.
Ouais. Mais après, les réseaux sociaux, moi, je sais que quand je suis sur Insta, bah, du coup, c'est aussi pour me cultiver. Du coup, moi, c'est surtout l'art. Bah, du coup, j'en profite voilà, pour regarder des choses toujours en rapport avec les dernières actus dans l'art, les dernières expos. Donc, voilà. Et puis, les podcasts aussi liés à l'art. Voilà.
Et vous?
Moi, Insta...
À fond?
C'est catastrophique.
Mais toi, t'as pas TikTok, toi?
J'ai pas TikTok, mais je fais la même chose sur Insta.
C'est les réels que tu regardes.
Heureusement que j'ai pas TikTok.
Ouais. Et toi, Esteban?
Non plus, j'ai que Insta. Donc, mais ça va, je passe pas forcément beaucoup de temps. Donc,
non, moi, regardez-le, les exemplaires.
Mais c'est, mais c'est plus comme on parlait, l'ordi, la télé, puis après.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas, il n'y a pas que le téléphone, encore une fois, et quand on travaille aussi, on est sur un ordi, donc ça joue beaucoup aussi.
Ouais, moi, je pense que le pire, c'est YouTube.
Ah ouais?
Je passe beaucoup de temps.
Tu sais que moi, je me suis déconnectée de YouTube, enfin, je regarde plus rien sur YouTube.
Tous les jours, hein, quand je fais quelque chose, je mets une vidéo YouTube. Dans les transports,
ouais, un petit
même.
Fond. Ça te fait un petit fond.
Ah oui, oui.
Ouais.
C'est l'équivalent de la télé au fond du salon pour les.
Ouais, c'est ça.
Les parents,
c'est ça. Exactement.
Et du coup, dernière question. Est-ce que vous pensez du coup que c'est nous qui contrôlons notre téléphone ou c'est plutôt le téléphone qui nous contrôle?
Bah, personnellement, je pense que c'est le téléphone qui nous contrôle parce qu'en fonction des messages qu'on reçoit, des notifications qu'on reçoit aussi, ça joue beaucoup. Mmh. On pourrait parfois, on peut avoir envie de se déconnecter, mais en fonction, bah, on peut avoir des messages, des appels. Et c'est pas que forcément regarder les réseaux sociaux, donc c'est, je pense que c'est un tout aussi.
Ouais. Bon, en tout cas, c'était le film de la semaine. Si vous avez 14 minutes, vraiment regardez-le, ça vaut le coup. Et c'est pas pour rien qu'il est allé au Festival de Cannes. Et voilà, c'était un plaisir. Je vous souhaite un très bon voyage et un bon film.
Moi, je vais repasser en portugais, du coup. Obrigada, Clarice. E fico connosco por daqui a 5 minutos. Teremos a entrevista com Victoria Alves. Mas por enquanto, vamos ouvir o último single de Anderson Mario com Yasmin, Mais um Caso.
No. Oh, no. Que seja. Por louco. Mario, yeah. Mais um caso que alguém chora por ti pra acender esse ego parvo que tu tens aí. Ouvir não me deixa bu, ouvir me chorar achas tão giro enquanto me oprimo por ti. Vejo que não tens motivos pra não me ver chorar por ti. Porque eu nunca chorei, chorei. Ninguém me fez sofrer. Mas eu vejo que tu tens prazer em me ver de joelho, te implorando pra voltar pra mim.
Mas não lembras de quando fui eu quem chorou. Engraçado ver tantas lágrimas de quem já me humilhou. Nunca te quis ver sofrer, nunca me fez feliz. Mas não posso mentir que isso te merece bem, te merece. E agora vens falar de amor. Não é prazer, é dor. E então fica de joelhos. Não adianta nem ligar pra mim. Nem tentas ligar pra mim. Pra mim. Pra mim.
E tu só voltas pra me humilhar.
Stade de Sponton sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour l'interview avec Victoria Alves. Alors Victoria, on le disait, tu es étudiante en marché de l'art, tu es aussi influenceuse en art contemporain sur les réseaux sociaux et tu as réalisé ta première exposition Trésor en Liberté en avril dernier. On va parler de tous ces sujets, mais pour commencer, on va parler des réseaux sociaux et de l'influence. Alors comment et pourquoi as-tu décidé de te lancer sur les réseaux sociaux ?
Alors, parce que j'avais déjà vu qu'il y avait certains comptes Instagram présents dans le milieu de l'art, comme Petite Histoire de l'Art, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a aussi l'influenceur Raphaël, que j'avais bien aimé en fait pendant le Covid. Et je me suis dit, bah, moi aussi j'ai envie de me lancer, mais dans l'art contemporain. Enfin, il y avait du coup Raphaël qui fait déjà de l'art contemporain. Mais du coup, moi aussi, je me suis dit, bah, allez, autant se lancer du coup dans la démocratie. La démocratisation, je vais y arriver, de l'art contemporain. Et aussi bah, les bons plans étudiants, comme bah, certains musées qui sont gratuits pour les moins de 26 ans, ou même les monuments historiques. Donc voilà, ça m'est venu comme ça. Voilà.
On le rappelle, ton compte, c'est Sous les jupons de l'art. Pourquoi
oui.
ce nom?
Parce que j'adore l'émission Sous les jupons de l'histoire. Avec Christine Bravo. Je sais pas si vous connaissez, mm-hmm. parce que moi j'adore enfin tout ce qui est secret d'histoire avec Stéphane Bern, c'est mon idole.
Oh,
et ouais, Christine Bravo. Et du coup, bah, quand je cherchais un nom, je me suis dit, bah, allez, genre Sous les jupons de l'art, ça claque bien, personne l'a, donc, allez.
Et du coup, tu fais tout toute seule, on en parlait un peu tout à l'heure, notamment les montages qui te prennent ouais. beaucoup de temps d'écran. Comment est-ce que tu réfléchis au concept? Où est-ce que tu trouves l'inspiration?
Alors, l'inspiration, bah, ça me vient comme ça. En fait, je prends surtout comme exemple, du coup, moi et aussi bah, des amis à moi, mais qui sont amateurs, du coup, dans l'art. C'est surtout ouais, les gens, en fait, qui sont amateurs d'art, ou par exemple aussi mon frère, qui n'est pas du tout dans l'art. Et du coup, les thèmes de poste, généralement, voilà, je les pense surtout pour eux, en fait, pour les personnes qui connaissent pas du tout l'art. Et là, du coup, j'ai aussi lancé, du coup, depuis fin janvier, une série qui s'appelle Donc ça, c'est de l'art, où en fait, c'est tiré d'un cours, en fait, que j'ai eu en art contemporain. Et en fait, un jour, il y avait une œuvre qui était passée, enfin, que le prof, il nous présentait, et je m'étais dit moi-même, mais donc ça, c'est de l'art. Mmh. Et je me suis dit, bah, en vrai, go en faire une série de vidéos, parce que, bah voilà, enfin, l'art contemporain,
c'était quelle œuvre?
C'était Merda de Artista.
Ok.
Je l'avais déjà vu parce que avant mon master, j'avais fait une licence d'histoire de l'art et j'avais déjà vu cette œuvre-là. Mais quand je suis retombée dessus, je me suis dit, mais comment c'est, enfin, pourquoi c'est de l'art? Enfin, donc voilà.
Et qu'est-ce que tu conseilles justement à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux dans un milieu un peu niche?
Bah, déjà de se lancer, de pas avoir peur du regard des autres. Parce que c'est vrai que moi, je me disais, purée, mais s'il y a des gens dans ma classe qui vont tomber sur mes vidéos et tout, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis je me suis dit, mais on n'a qu'une vie. C'est pas grave si je vois que j'ai ce détail-là sur mon visage ou quoi, parce que bah au départ, je montrais pas forcément mon visage, mais après, je l'ai montré. Mais en tout cas, le conseil que je dirais, c'est juste d'y aller, de foncer, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études ou quoi en montage. Enfin, vraiment d'y aller comme ça au culot, enfin, dans l'influence ou les choses comme ça, c'est surtout le culot qui fonctionne. Donc vraiment juste d'y aller, quoi.
Justement, tu disais que tu avais peur un peu de la vision des gens de ta classe. Mais quelle est la vision que pose le marché de l'art sur les réseaux sociaux et l'influence? Est-ce qu'ils le voient peut-être plus comme une opportunité de démocratiser l'art ou encore comme quelque chose où ils sont un peu réticents justement au fait que ça s'ouvre à plus de monde?
Non, bah en soi, ça aide justement à la démocratisation parce que maintenant, il y a aussi beaucoup de maisons de vente aux enchères qui s'y mettent sur les réseaux, mais pas encore assez, parce que c'est vrai que c'est quand même plus un milieu où c'est plus pour les adultes, entre guillemets, qui ont à partir de la quarantaine. Donc les réseaux sociaux, ils sont pas vraiment accès. Enfin, les réseaux sociaux, en tout cas dans le marché de l'art, il y a encore quand même, je trouve, beaucoup de choses à faire. Parce que voilà, c'est quand même assez un milieu, je trouve, plus pour les personnes âgées que plus pour les jeunes. Mais je trouve que justement, on est les futurs acheteurs de demain. Donc, et puis maintenant, enfin, avec tout ce qu'il y a, il y a aussi des milliardaires qui sont jeunes ou même des... Enfin, il y a des gens voilà, qui kiffent l'art et qui vont peut-être pas forcément mettre de l'argent dans une voiture, mais plus dans un tableau ou autre. Donc, en tout cas, je trouve que ça aide à démocratiser le marché de l'art, de se mettre sur les réseaux sociaux.
Et justement, tu as une série de vidéos où tu présentes des œuvres en disant ça,
oui.
C'est de l'art. D'ailleurs, hyper cool parce que du coup, comme tu le dis souvent, on retient. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Et justement, je voulais te demander comment ça t'est venu, cette idée-là de dire cette petite phrase à chaque fois. Et justement, ta série de vidéos, Enfin voilà.
Bah du coup c'est comme je l'ai dit avant, c'est ça a été quand j'ai eu mes cours d'histoire d'art contemporain où je me suis dit donc ça c'est de l'art par rapport à une œuvre d'art en particulier. Et aussi parce que bah il y avait, enfin par exemple mon frère un jour on était aussi allé dans un musée d'art contemporain et lui je sais qu'il aime pas du tout l'art contemporain et c'était le premier à me dire donc ça c'est de l'art, enfin on marche sur la tête quoi, moi aussi je pourrais faire la même chose. Ou même quand il y a certaines œuvres de Jeff Koons, je sais pas si vous connaissez, où c'est surtout des sculptures qui représentent un peu des animaux en ballon. Et ça, souvent, on se dit, mais moi, je pourrais faire la même chose. Et c'est un des artistes contemporains qui se vendent les plus chers. Enfin, sur le marché de l'art, c'est exorbitant, les prix. Mais voilà.
Est-ce que tu as d'autres concepts de vidéos que tu as développés, dont tu souhaiterais nous parler, ou alors que tu aimerais développer, que tu as en tête?
J'avoue que pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, peut-être de développer plus maintenant des personnalités dans le monde de l'art contemporain pour expliquer un peu plus aussi le fonctionnement des galeries, des ventes aux enchères où voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire et pour aider du coup à démocratiser tout ça parce que c'est vrai que c'est quand même un milieu assez niche. Et aussi faire des posts sur comment apprendre à collectionner quand on est jeune. Voilà.
Et est-ce que ta culture portugaise, elle influence ta création de contenu ou pas?
Bah, malheureusement, non. Après, là, je vais bientôt partir au Portugal, à Porto, cet été. Donc là, justement, je pensais faire une série aussi de vidéos de qu'est-ce qu'il y a à visiter à Porto, du coup, parce que c'est là d'où je viens, en tout cas, enfin mes origines, pardon. Donc, il y a des fondations, il y a des galeries, donc... voilà, faut en faire
des petites séries. Tu auras de la matière.
Oui. Voilà.
Pourquoi tu dis malheureusement, t'aurais bien aimé. Enfin, t'as pas un lien très fort aujourd'hui avec la culture portugaise?
Pas trop. Maintenant, ça se développe plus, mais c'est vrai que avant, non, je portais pas trop d'attention sur mes origines portugaises et j'étais pas plongée dedans. Mais là, avec les études. En histoire de l'art, par exemple, j'avais eu quelques cours où vite fait, on avait un peu parlé de l'architecture en Espagne et au Portugal. Et là, du coup, je me suis dit, donc il y a aussi des choses au Portugal. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup là à dire, oui, il y a beaucoup de choses en France. Enfin, le patrimoine, il est génial, il y a de tout. Et donc, c'est vrai que je n'y pensais pas, en fait, à ce que le Portugal, même si mon père, lui, est très fan, il connaît toute l'histoire du Portugal. Et il me disait souvent, il y a ça à faire au Portugal. Mais... Je m'y intéressais pas vraiment, quoi. J'étais plus quand même moi axée sur la France. Et maintenant, je suis aussi plus mature. Donc, maintenant, je m'y intéresse plus quand même.
Et pour finir cette première partie, quels sont tes objectifs dans l'influence? Quelles sont aussi les opportunités que tu as pu avoir ou d'autres que tu aimerais arriver?
Alors, au niveau de mes objectifs, ça serait de continuer d'avoir de plus en plus de personnes qui me suivent, mais surtout des jeunes, parce que voilà, moi, c'est surtout les jeunes qui m'intéressent, et pourquoi pas après, on en reparlera après avec l'exposition, mais du coup, de faire une autre exposition toujours dédiée aux jeunes, à l'accessibilité à l'art, et j'avais plus l'autre partie de ta question.
Quelles opportunités ça t'a ouvert, l'influence?
Et les opportunités, du coup, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres galeries, parce qu'après, j'ai été invitée du coup à des vernissages, ou aussi à découvrir du coup des artistes. J'ai pu faire des visites d'ateliers, rencontrer plein d'artistes émergents. Donc, ça a été hyper riche au niveau d'échanges avec des artistes, de voir comment ils procédaient dans la création. Et aussi des rencontres avec des professionnels du marché de l'art, avec des commissaires-priseurs. Et j'ai pu aussi aller dans des endroits comme le Palais de l'Élysée, où on avait fait une visite. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'art contemporain au Palais de l'Élysée. J'étais assez impressionnée, donc c'est plutôt sympa.
Merci beaucoup, Victoria. On continue d'ici 5 minutes cette conversation. On va parler de l'exposition que tu as réalisée, du fait de débuter une collection et des idées reçues sur l'art contemporain. Tout de suite, on s'écoute une musique que tu as choisie, Vex O de Kate Ranada et Goldlink.
To the left, wanna take a real life reset. She said, I don't want no effecto, ha, ha, ha. And I say, no vexo, no vexo, ha, ha. My baby don't vexo, my baby don't vexo, ha, ha. And I say, no vexo, no vexo, ha, ha. My baby don't vexo, don't vexo, ha, ha.
I just wanna get behind you on the dance floor. Then I take it back to the back of the dance club. Handsome, always call me handsome. Then I hand rub, throw tantrums. If you leave me, that's it. Lord, no lie. When I ride on that beat, I just try to supply. Gonna be good. Thank you, I don't even care much. I'm endo. Rep good, but I think I'm an asshole. Fuck me good, then I fuck so long that the moon and the sun's position is sick, cool. And I roll it over, I call it a pick roll. I'm on top, I don't mind if we switch clothes. Next morning when we leave, you can switch clothes. Pissed off, you ain't get my number when I hit door. Real nice with the words, but I mean with a nice stroke. And I kinda bite though, aight ho.
Bad belly when she get. You gon' try, try, she ain't no forget. No, no forgiveness. So, to the left, to the left.
Radio Alpha. 15h02, vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt de Sponton. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre et nous sommes toujours en interview avec Victoria Alves. Alors donc, on l'a dit, tu es influenceuse de l'art mais aussi étudiante en marché de l'art. Donc, quand est-ce que tu as compris que tu voulais étudier l'art contemporain? Comment est-ce que tu as découvert même l'art contemporain?
Alors, ça a commencé en terminale. De base, je voulais faire du droit. Et puis, en fait, c'est juste sur YouTube. Parce que c'était post-Covid, donc j'étais souvent sur YouTube. Et puis, je suis tombée en fait sur une fille qui faisait une licence d'histoire de l'art à la Sorbonne. Et j'ai accroché sur ses études où ça ouvrait... Bon, là, c'était pas sur l'art contemporain, mais ça ouvrait en tout cas un large panel sur l'histoire de l'Antiquité à maintenant. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en fait, je me suis dit, je crois que c'est ça ce que je veux faire. Parce que moi, j'ai toujours du coup été bercée dans l'histoire, pas forcément dans l'art. J'allais quand même dans des musées, mais l'art contemporain, voilà, c'était pas ce qui intéressait forcément mes parents ou mes proches. Donc, bon. Et c'est en cours, du coup, quand on a eu des cours d'art contemporain et d'art moderne aussi, où là, je me suis dit, ça, c'est ce qui m'attire vraiment. Et donc, c'est là où, quand on a dû faire, du coup, les choix de master, je me suis spécialisée, du coup, dans le marché de l'art, en art contemporain, parce que c'est ce qui m'attirait le plus, parce que je trouve qu'il y a vachement de diversité, c'est pas redondant, enfin, c'est pas que des tableaux, que de la sculpture, il y a vraiment de tout. Et ça aborde aussi plusieurs sujets importants et d'actualité, et que je trouve aussi importants, donc... Voilà.
Et comment ta famille elle a réagi à ton choix d'études? Est-ce qu'ils ont compris ce que tu faisais au début ou...
Alors, c'était pas... Ils ont compris, ils m'ont vachement poussée et tout. Enfin, vraiment, j'ai de la chance, j'ai des parents franchement qui sont très encourageants. Mais c'est vrai que c'était pas du tout leur... Enfin, de passer du droit à faire histoire de l'art, c'est vrai que ça leur a fait un peu... Ils connaissaient pas ces études-là, donc ça leur a fait un peu bizarre. Mais après, quand ils ont compris, ou même là, avec mon exposition, par exemple, ma maman, elle a vraiment compris, du coup, qu'est-ce que c'était le métier d'être curatrice, médiatrice, d'être galeriste, vraiment... Parce que voilà, c'était un monde tout nouveau pour eux. Mais ils ont... Enfin, même eux, au final, ils se documentent. Après, voilà, mon père, du coup, il est plus dans... Il adore l'histoire, mais l'art, ouais, c'était un peu plus compliqué pour eux à comprendre. Mais maintenant, ils sont à fond, ils continuent de m'encourager.
Est-ce que tu te souviens de ta première impression devant une œuvre d'art contemporain ?
Eh ben, c'était... je vais me répéter, mais c'était... Mais donc ça, c'est de l'art, parce que c'était une œuvre de...
Mais tout part de là, du coup.
En fait, tout part de là. Bah, justement, c'était aussi avec Jeff Koons, où je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'était du coup une grande sculpture, c'était Rabbit, et je m'étais dit mais ça vaut des milliers d'euros, donc ça c'est de l'art, je pourrais faire de la même chose quoi finalement, moi aussi je peux être artiste quoi. Donc au départ c'était un peu quand même négatif, et puis après en comprenant sa démarche et aussi pour d'autres œuvres un peu qu'on pourrait penser un peu farfelu, au final c'est là où l'importance du contexte est important, et je pense que c'est surtout sur ça qu'on doit travailler maintenant, c'est surtout sur la médiation, vraiment comprendre en fait l'histoire de pourquoi l'artiste il a fait cette œuvre-là, parce que bah, du coup sinon les personnes oui peuvent se dire qu'ils peuvent faire la même chose alors que non, en fait il y a toute une histoire derrière.
Et puisqu'il y a beaucoup de clichés dans l'art contemporain.
Oui.
Et justement, comment t'expliques ces clichés-là et tu répondrais quoi par exemple à ceux qui les véhiculent autour de toi?
Alors, en soi, moi, je comprends.
Regarder ta série de vidéos.
Alors oui, oui, oui. Mais je comprends, enfin, ces réactions-là, parce que voilà, moi aussi, j'ai eu les mêmes réactions. Mais je pense que c'est bah du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est la question de la médiation. En fait, ces personnes-là, bah, c'est vrai qu'aussi l'art contemporain, il faut quand même avoir, je pense, un petit bagage pour comprendre, même si c'est un peu réducteur, parce que bon, enfin, ça veut dire du coup avoir accès à, il faut avoir accès à l'art ou à des connaissances. Mais au final, maintenant, il y a de plus en plus de bah, d'influenceurs dans le monde de l'art. Il y a aussi bah, la présence des cartels, il y a aussi la présence des médiateurs. Il y a aussi maintenant tous des projets aussi de médiation papier quand on va dans des musées aussi, qui est important. Donc voilà.
Et toi, ton but, c'est aussi de démocratiser l'art en général et surtout l'art contemporain. Donc, comment est-ce que... Enfin, toi, tu t'y prends par ton compte Insta. Au-delà de la médiation, est-ce que tu as une autre idée de comment le faire? À l'école ou...
Oui, alors à l'école, après maintenant, par exemple au lycée, je sais qu'il y a l'aspect art ou histoire de l'art. Mais les personnes ne vont pas forcément aller dans cette spécialité-là. Après il y a les réseaux sociaux qui aident ou sinon bah tout simplement d'aller dans des musées parce que bah c'est important quoi, enfin c'est bien beau de voir les œuvres sur un écran, mais quand en tout cas j'étais à la fac, les profs ils nous disaient mais c'est pas un bout de papier, enfin vous pouvez pas dire que vous êtes historien de l'art si vous avez jamais vu l'œuvre en vrai. Donc d'aller dans des musées, justement on a cette chance là quand même, c'est que pour les moins de 26 ans, bah, y a souvent les musées qui sont gratuits, donc de vraiment en profiter, quoi, parce que quand même, les prix pour aller au musée après 26 ans, par exemple, le musée du Louvre, c'est quand même un petit budget.
C'est généreux, ça.
Ouais. Je crois que c'est 17 euros, un truc comme ça. Donc, ouais.
Et le premier dimanche du mois aussi, c'est gratuit.
Aussi, pour tout le monde. Donc, vraiment, il faut sauter sur ces occasions-là, quoi.
Et est-ce que tu as des artistes, par hasard, contemporains, lusophones, que tu recommandes ou non?
Alors j'ai Johanna Vasconcello, je sais, ouais. Liliana, c'est
ça. C'est moi la ref.
Si je dis pas, j'écorche, je veux pas écorcher
son. Pour l'anecdote, Antonin l'a rencontrée d'ailleurs, Johanna Vasconcello.
Ouais, j'ai dit tout avec elle, c'était lors de l'inauguration de
l'arbre de vie,
de l'art de vie à
la chapelle,
château de Vincennes.
Ok.
Où, du coup, Cap Magellan et Tempestad avaient été invités.
Elle est sympa ou pas?
Bah, j'ai pas eu l'occasion de parler.
Vas-y, je crois.
Vraiment, il y a un monde fou. Et ouais, non, mais par contre, oui, dans comment elle parlait, comment elle s'exprimait sur son travail, etc., c'était super. Elle remettait beaucoup en valeur tout le travail des personnes de son atelier. Mmh. Parce qu'il est vraiment incroyable. Ouais. Notamment pour l'arbre de vie, c'est vraiment une œuvre monumentale qui a demandé un travail de fou.
Trop belle. Voilà. De toute façon, il va pas dire qu'il l'aime pas. Hein, direct.
Mais ouais, il y a quelqu'un qui me vient. À l'esprit. Donc c'est vrai que oui, malheureusement, j'ai pas forcément des refs du coup d'artistes lusophones.
T'aimerais bien en découvrir plus?
Oui. Oui oui, après j'en ai rencontré quand même aussi en faisant des recherches elle est décédée, je crois que c'est Olga Douamaral. Il y avait une exposition au musée du Luxembourg et j'ai adoré, je connaissais pas du tout l'artiste et j'ai adoré.
Écoute, tu te renseigneras, tu viendras nous faire une rubrique avec Liliana.
Ouais, on va apprendre cet été, du coup, quand tu auras fait toutes les galeries de Porto.
Voilà,
exactement. Voilà. Et tout de suite, on va écouter une autre musique que tu as choisie, que d'ailleurs on adore, Let It Happen de Tame Impala. Et du coup, Victoria, on le disait, en avril, tu as réalisé la première édition de l'exposition Trésor en liberté. Alors, Liana nous en a beaucoup parlé.
Ouais.
Est-ce que, quand même, tu peux réexpliquer rapidement le concept pour ceux qui n'ont pas suivi les rubriques de Liana, finalement?
Oui. Alors, le concept de Trésor en liberté, c'était du coup une exposition collective avec 7 artistes émergents qui venaient de Paris. Et donc, le concept, en fait, c'était de proposer différentes œuvres. Donc, il y avait autant de la céramique, de la peinture, du dessin, des œuvres textiles. Et en fait, toutes les œuvres étaient à maximum 100 euros pour que, justement, les jeunes poussent la porte d'une galerie et puissent commencer à acheter une œuvre et à commencer à collectionner. Parce que moi, la première, j'ai envie de collectionner des œuvres d'art. Mais bon, quand on va en galerie, les chiffres font peur. Donc, et forcément, on se sent pas légitime. On se dit, il faut être milliardaire quoi pour commencer à collectionner, alors que pas du tout. Au final, avec cette exposition-là, j'ai pu montrer en tout cas aux jeunes que il y a des artistes émergents qui proposent quand même des œuvres moins chères. Et puis même aussi, j'ai vu que dans d'autres galeries sur Paris, ils faisaient déjà aussi un peu ce concept-là. Mais voilà, Trésor en liberté, c'était surtout du coup une exposition pour que les jeunes puissent commencer à collectionner.
Et du coup, l'idée t'est venue parce que du coup à Paris, t'avais déjà vu ce genre...
Alors c'est venu de mon constat à moi, en fait, du fait que je voulais commencer à collectionner mais que j'avais pas forcément les moyens. Je connaissais pas encore ces galeries-là, c'est après en faisant des recherches pour voir si le concept avait déjà été fait. Et parce que aussi il y avait des amis à moi qui étaient amateurs d'art et qui me disaient quand je vais en galerie, ça coûte toujours une blinde quoi, et alors que moi j'ai quand même envie de m'acheter un petit tableau, et donc c'est là où je me suis dit allez, go, il y a un truc à faire là, donc voilà.
Et quelles ont été, peut-être sans entrer trop dans les détails techniques, mais les étapes de la réalisation de l'exposition? Par quoi on commence quand on veut faire une exposition, en fait?
Alors, déjà, faut trouver le concept. Ensuite, faut trouver un lieu d'exposition, donc échanger, du coup moi c'était avec un galeriste, donc échanger avec le galeriste, savoir quand est-ce que du coup on peut faire l'exposition. Donc du coup c'est là où on a vu que c'était plus mi-avril, parce que avant il y avait pas, enfin en fait tout est aussi stratégique au niveau des dates, enfin pour que justement il y ait quand même du monde qui vienne. Ensuite c'est de contacter des artistes ou de faire un appel à projet. Donc moi, je m'en souviens, j'avais fait quand même une story pour... J'avais quand même quelques artistes en tête, mais j'avais fait une story, du coup, appel à projet pour demander si des artistes émergents qui étaient sur Paris étaient OK pour faire des œuvres à maximum 100 euros pour la démocratisation de l'art pour les jeunes. Et donc après, tout s'enchaîne. Après, c'est du coup faire des relances avec les artistes, voir qu'est-ce qu'ils ont produit... et ensuite préparer tout ce qui est la communication. Donc j'avais ouvert un compte Instagram et je l'avais lancé en janvier. Donc toutes les semaines je postais 3 fois par semaine, j'avais fait du coup des interviews avec les artistes. Aussi il y a la communication papier, donc imprimer du coup les cartels, imprimer les affiches d'exposition, les mettre dans les rues ou dans les établissements. Parce que vu que moi, du coup, c'était visé pour les jeunes, du coup, j'en avais mis plein dans mon établissement et dans d'autres établissements, donc à la Sorbonne, à la Cato de Paris. Et puis après, il y a tout ce qui est le montage. Du coup, une semaine avant, idéalement. Bon, moi, ça a été fait 2-3 jours avant. Donc, c'est assez intense parce que du coup, il y a tous les artistes qui rentrent un par un. On fait du coup le montage. Il faut penser aussi à la scénographie. Donc, la scénographie, c'est la disposition des œuvres dans la galerie. Et après, il y a le vernissage donc aussi. Donc, préparer tout ce qui est les boissons, la partie un peu plus fun où c'est un peu plus détente. Et voilà.
Ouais, faut être partout. Faut avoir une casquette. Beaucoup de casquettes.
C'est ça.
Et pourquoi t'as choisi justement Opar? Je sais pas si ça se prononce comme ça.
Oui.
Comme parrain. Enfin, comment ça s'est passé, la mise en relation?
Alors, pourquoi Opar? Déjà parce que c'est un street artiste franco-portugais. Et en fait, il expose dans la galerie où je suis en alternance. Et du coup, on avait pu parler. Et lui, il était vachement justement dans la démocratisation de l'art. Et puis même le street art, ça démocratise. En fait, l'art, c'est de l'art de rue, de l'art urbain, de l'art accessible pour tout le monde.
Et il avait trouvé, bah, le, j'en avais parlé du projet, pas forcément pour qu'il soit le parrain, mais au départ. Et il avait grave kiffé. Il était en mode, bah oui, oui, il faut justement qu'il y ait plus de jeunes, bah, qu'il fasse ça pour les jeunes. Et donc, bah, c'est là où il m'avait dit qu'il souhaitait en tout cas être le parrain pour soutenir le projet.
Et pourquoi il faudrait débuter une collection d'art selon toi? Et comment le faire avec un petit budget?
Alors, une collection, en soi, ça vient de si on a envie de faire une collection, personne n'est obligé de faire une collection. Mais si, par exemple, on a envie de débuter, avoir une collection d'art, c'est pas forcément avoir 100 œuvres d'art. Justement, il faut faire avec le coup de cœur et maintenant aussi avec les rapports aussi qui a été fait avec Art Basel, c'est un peu la grosse tête dans le monde du marché de l'art pour donner du coup les rapports qui ont été faits les années précédentes. Bah maintenant on voit que les tendances c'est surtout de discuter avec les artistes et je le vois aussi moi en galerie où je suis en alternance, ce qui fait aussi la différence de maintenant pourquoi on va acheter une œuvre, c'est de s'intéresser à l'artiste, d'échanger avec lui. Donc moi, le conseil que je donnerais aux personnes, c'est que faut pas aller forcément en galerie pour commencer sa collection d'art. Il faut aller vers quelque chose qui nous plaît, qu'il y a aussi des artistes émergents qui exposent aussi bah, beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même plus d'artistes que de galeries en France et même de partout, j'imagine. Donc vraiment de regarder voilà sur les réseaux sociaux et d'échanger avec l'artiste et puis même des fois il peut même faire des petites réductions voilà si le courant il passe bien et qu'on expose notre situation ou même je sais qu'il y a certaines galeries bah quand on a par exemple un coup de cœur pour une œuvre qui coûte 1 000 euros et qu'on n'a pas forcément les moyens de dépenser 1 000 euros comme ça, bah certaines galeries sont assez compréhensibles et peuvent nous faire du coup un paiement sur plusieurs mois. Donc c'est vraiment, ça marche sur le coup de cœur et il faut pas oublier voilà qu'il y a beaucoup d'artistes émergents et donc que les œuvres elles sont pas forcément à 1000 euros ou à des budgets exorbitants et que c'est surtout au coup de cœur en tout cas qu'il faut faire.
Et est-ce que tu vas réaliser d'autres éditions de Trésors en liberté ou t'as d'autres futurs projets?
Alors je souhaite, oui, je vais faire une deuxième édition, je pense plus du coup pour l'année prochaine parce que c'est quand même ça prend du temps d'organiser tout ça et j'aimerais du coup cette fois-ci la faire à Paris parce que là la première édition était à Saint-Ouen et donc là ça serait plus sur Paris et sous forme de pop-up et pourquoi pas que là au lieu de 4 jours ça soit sur une semaine
avec des artistes lusophones ou pas?
Bah oui, bah avec plaisir, oui, il faut que je fasse des recherches mais oui.
Est-ce que tu as un dernier mot, un message pour les jeunes, à part venir voir cette expo?
Et bah que justement, il faut pas hésiter et que si vous vous sentez pas légitime d'aller en galerie ou en musée, bah il faut y aller parce que c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est pas réservé que pour les milliardaires ou autres, comme on pourrait se dire. Non, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et il faut démocratiser l'art parce que l'art devrait être accessible à tous.
Merci beaucoup, Victoria, pour tes réponses. Tu restes avec nous. On rappelle ton compte Instagram, Sous les jupons de l'art, à aller suivre. Et restez avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h. Et d'ici 5 minutes, ce sera le moment de l'actu sport avec Esteban. Et en attendant, on va écouter la dernière musique que tu as choisie, que j'adore, Midnight Sun de Zara Larsson.
Show my tan lines, low rise rooftop now. It's golden hour all the time. It's the midnight sun kiss, get under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. A never-ending midnight sun. Never-ending midnight sun. Connected. In touch with it all. Feel the grass in between my toes. Bombshell wind in my hair, baby. Let it
Stade de Ponton sur Radio Alpha, c'est le moment de l'actu sport avec Esteban.
Et j'ai une première question du coup pour Victoria. Est-ce que justement, bon, t'as dit que tu venais de Porto, est-ce que le sport tu suis un peu ou est-ce que tu fais du sport par exemple ou t'en as fait dans ta jeunesse?
Je suis le sport, moi je suis pas très foot, je sais que là du coup c'est la période avec la Coupe du Monde, mais moi je suis plus sport automobile, je suis plus F1.
Ok.
Et je fais du sport aussi à côté, donc je fais du pilates principalement.
Ok.
Voilà.
C'est pas alien quoi.
Non mais ok, d'accord, c'est cool. Et du coup que t'en as parlé, c'est la Coupe du Monde. Du coup ça a commencé depuis une semaine et je pense que vous avez un peu tous suivi ce qui s'est passé avec le Cap-Vert cette semaine, qui a fait match nul contre l'Espagne 0-0. L'Espagne, on rappelle, championne d'Europe en titre et l'une des grands favorites au titre. Donc un joueur s'est distingué lors de ce match, c'est le gardien capverdien Vozinho. De son vrai prénom Josimar Dias, il a été élu homme du match après une prestation exceptionnelle. Mais c'est son parcours qui rend l'événement encore plus génial. Vozinho a dû attendre ses 40 ans pour jouer un premier match de Coupe du Monde inattendu, et en plus le premier match de Coupe du Monde de l'histoire du pays. Il y a encore un premier match qui était, il y a encore quelques années, inattendu. Il est devenu professionnel à 25 ans, un âge tardif pour entamer une carrière professionnelle. Il joue actuellement en deuxième division portugaise du côté de Chaves. Et après le match contre l'Espagne, il a gagné des millions d'abonnés sur Instagram, c'est totalement fou, passant de 45 000 à aujourd'hui 14,5 millions. Et la dernière anecdote, elle est sur son surnom. Mais d'abord, j'ai justement une question pour tout le monde ici. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez une idée de pourquoi il s'appelle Vozinho?
Est-ce qu'il chuchote au ballon? Je sais pas.
D'autres propositions? Je vais pas vous dévoiler, ok. Lorsqu'il était jeune, du coup, il jouait avec des garçons plus âgés que lui. Il se faisait harceler. Il rentrait ensuite chez ses grands-parents, qui l'ont élevé à la place de ses parents trop occupés par leur travail. Furieux et triste, les autres garçons lui disaient donc d'aller se plaindre auprès de ses grands-parents et de sa grand-mère en particulier, raison pour laquelle il a hérité de ce surnom. Un très bon parcours donc, et aussi un message puissant pour toutes celles et ceux qui vivent une enfance compliquée ou qui attendent longtemps avant de commencer la carrière dont ils ont toujours rêvé. Je trouve ça en tout cas génial, bravo à lui et à tous ses coéquipiers pour cette performance historique qui a rendu fier tout un archipel. Le prochain match pour le Cap-Vert est contre l'Uruguay lundi 22 juin à minuit. Une victoire et ils seront quasiment qualifiés pour les 16e de finale. Ils clôturent ensuite la phase de groupe contre l'Arabie Saoudite le 27 juin à 2h du matin. Le Cap-Vert a pris toute la lumière, éclipsant ainsi les géants lusophones que sont le Brésil et le Portugal, deux pays qui ont eu une entame très moyenne dans la compétition avec un match nul un partout pour les deux équipes. Le Brésil a joué la nuit dernière contre Haïti et s'est repris en s'imposant 3-0. Le prochain match pour les Brésiliens est contre l'Écosse jeudi prochain à minuit. Je parlais aussi du Portugal qui a fait match nul un partout contre la République démocratique du Congo. Le prochain match pour la Seleção das Quinas sera mardi prochain à 19h contre l'Ouzbékistan. Et j'ai une petite question, comment vous qualifierez ce match justement si vous l'avez vu du Portugal mercredi?
Chiant.
Ronaldo, excuse-moi.
Ouais, il va falloir jouer quoi.
Charles, tu as quelque chose à dire peut-être?
Ça on est d'accord, il va falloir jouer. Et en tout cas, dans l'autre match du groupe, la Colombie a dominé l'Ouzbékistan 3-1, prenant ainsi la tête de la poule. Prochain match, donc je l'ai dit, pour Ronaldo et ses coéquipiers, mardi prochain à 19h contre l'Ouzbékistan. La République démocratique du Congo jouera, elle, face aux Colombiens, que les Portugais retrouveront lors de la dernière journée, le dimanche 28 juin à 1h30 du matin. Donc si la sélection A souhaite gagner un premier trophée planétaire, les jeunes de moins de 20 ans ont quant à eux soulevé le trophée du tournoi Maurice Revello. Victoire 2-0 en finale contre la Tunisie, une première depuis 23 ans et c'est la quatrième fois que le Portugal remporte la coupe. Les victoires ne s'arrêtent pas au football pour le Portugal car le championnat d'Europe de canoë avait lieu le week-end dernier. Au Portugal en plus, à Montemor-o-Velho près de Coimbra, et le bilan est très positif, chez les hommes 4 médailles,
dont 2 en or, et chez les femmes, 3 médailles, dont 1 en or. On reste dans les sports d'eau, mais cette fois avec une mauvaise nouvelle. La Fédération portugaise de natation a annoncé le décès de Luís Vaz Jorge à l'âge de 92 ans. Ancien nageur professionnel, il a participé aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome dans l'épreuve du 200 mètres papillon. Il faisait partie de l'une des premières générations de nageurs portugais à participer au plus grand événement sportif mondial. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. Place maintenant au basket. Le FC Porto a été sacré champion national pour la première fois depuis 10 ans en battant Benfica 3 matchs à 1. Le 13e championnat pour les Dragons, bien loin des 31 de Benfica. Et finalement, on conclut avec Madalena Coste qui prépare le championnat national de patinage artistique en patin à roulettes. 2 semaines après avoir remporté son premier championnat du monde, la jeune patineuse de 17 ans est revenue dans son club de Santa Cruzens pour s'entraîner. Insatisfaite de son niveau malgré son sacre, elle fera tout pour atteindre le plus proche de la perfection. Et il s'agira de sa première participation au championnat national de la catégorie senior qui fera guise de préparation en vue du championnat d'Europe et de la Coupe du Monde appelée les Roller Games. Le sport n'est d'ailleurs pas sa seule priorité puisque Madalena Coste doit aussi passer ses examens avant de vouloir commencer des études de psychologie à l'université. Elle souhaite se spécialiser dans la psychologie sportive. Elle a en effet 17 ans, rappelons-le. Mais avant donc, il y a la Coupe Nationale dans quelques semaines.
Merci beaucoup Esteban. On finit sur une très bonne athlète, n'est-ce pas? Et un très beau sport. En tout cas, juste après, ce sera Antol Discard Porto. Et tout de suite, on s'écoute le dernier single de Angèle, Dis-le.
S'accorder, mais une chose à la fois respire et ne fout pas la merde. Compter les étoiles, elles font déjà partie du passé. Ça donne le vertige sur terre. Tout s'arrête un jour, c'est l'épreuve de la lucidité. Même tout ce qu'on regrette. Seul, dis-le que t'es fatigué. Dis-le pourquoi t'es pas bien. Dis-le pourquoi c'est pas rien. Dis-le plus fort. Oh. Dis-le où tu as mal. Dis-le qui t'a blessé. Oh, dis-le. Dis-le. Dis-le que tu aimes les reines. Dis-le que t'aimes les rois. Dis-le que t'as peur du futur. Dis-le si t'oses pas le dire. Dis-le que tu as la peine. Dis-le dans mes bras. Dis-le que t'en peux plus. Dis-le que tu veux plus. Dis-le que tu crois pas. Dis-le que tu sens pas. Dis-le que tu veux plus. Dis-le que tu mérites pas ça. Dis-le que t'es perdu, dis-le que tu t'en sortiras. Un instant, vivre que dans l'instant, manifeste au destin, tout restera certain. Écoutez son instinct, vivre que dans l'instant, manifeste au destin, tout restera certain.
Está a ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4. Chegou o tempo para Antônio de Esquerda Porto. Então, Antônio, quem apresentas hoje?
Hoje vou falar de um artista brasileiro. Já que estavas a falar, Esteban, do Brasil, da sua performance no Mundial, agora vamos falar da sua música com um grupo muito conhecido de São Paulo, mas também no internacional. É um individual desse grupo, do qual vou falar, que tem todos uma colaborações e uma amizade, certo, com um grupo que, do qual gostamos muito, os Capitão Fausto, que vieram aqui à França há alguns meses agora. Esse individual que eu vou apresentar tem hoje 35 anos, mas começou a sua carreira em 2009, quando tinha apenas 18. Estou a falar do Tim Bernardes. Para começar a descobrir o seu universo, vamos ouvir uma das suas músicas mais conhecidas. É agora. Chama-se Bebê Garupa de Moto Amarela.
Tudo em volta tem me confirmado, bebê, que eu e você somos coisa de alma. O universo tem deixado claro, bebê, só quem não quer ver não enxerga. Namora comigo, eu namoro com você. Garupa de moto amarela, é meu feriado favorito. Você, quem eu quero ser, tem que estar do seu lado. Já me apaixonei ficando cego, bebê. Com você eu sonho de olho aberto, bebê. Quero amar e sempre ver de perto você.
É uma das suas canções mais recentes, em 2022 foi publicada. Conheciam-na?
Não.
Então, agora
eu conheço Tim Bernardes, mas só porque ele cantou com o Capitão Fausto.
Exato, e vamos passar esta música mais a seguir. É um artista multitalentuoso, produziu, compôs e fez os arranjos para as 15 faixas do seu álbum, que foi nomeada sem ganhar ao Grammy Latino da melhor álbum de MPB. Essa canção, Bebê, foi escrita como uma prenda para a namorada dele, e o nome completo dessa música é Bebê, Garupa da Moto Amarela. O meu garupa é a maneira de sentar atrás, por trás de uma moto. E faz, assim temos essa imagem de ambos eles andarem de moto pelo bairro de Santa Cecília, em São Paulo. E ele a declarar com essa música o seu amor sincero. Desde que publicou essas faixas, sempre esteve do lado mais sentimental, apaixonado da música brasileira popular. Ele começou a aprender a música aos 6 anos, que tinha o seu pai, que era músico também, e então assim entrou nesse meio. E é sempre mais fácil assim, porque quando teve 18 anos, lançou a sua primeira banda, o Terno, que é uma banda com a qual ele publicou 4 álbuns de indie rock. Também fizeram turnês na Europa, até em França, em Portugal e na Espanha, em Barcelona. E depois de 5 anos de turnê intensa, o Tim Bernardes, o cantor da banda, decidiu fazer carreira solo para publicar músicas mais calma, mais emocionante, como qual que acabamos de ouvir agora. Vamos ouvir uma segunda, um excerto só de um concerto na Pine House, no Porto. Isso é normal.
acabamos de ouvir uma versão da sua música Rumsar, que era uma das primeiras músicas que ele publicou quando decidiu fazer carreira a solo, depois de sair da banda, de fazer uma pausa com a banda Eterno. Então temos assim recomeçar uma nova era para ele, e nesta versão ele está com uma orquestra. É um concerto que ele fez bem depois, em 2019, com uma orquestra no Porto, na Pine House, que é um estúdio ali. E ele faz muitas colaborações com orquestras, porque a sua música mais calma, assim, com a instrumentação complexa, rende muito bem com a orquestra. Ele fez uma nova no Tiny Desk Brasil, para a saída do seu álbum, o aniversário da sua saída do álbum Mil Coisas Invisíveis, em 2025. Então hoje ele tem a solo só dois álbuns, ambos bem completos, com 32 faixas ao total, com 5 singles também e colaborações com outros artistas, entre os quais, como eu disse no início, os Capitão Fausto, que também são, é uma banda portuguesa com a qual ele é muito amigo. Por prova, temos aqui que no Rock in Rio, em 2019, tinham ambos uma hora de show completo que fizeram juntos entre o Terno e o Capitão Fausto, e alternavam entre as suas músicas, faziam uma música do um e uma dos outros, e também tocavam todas as partes juntos, e é um momento muito lindo, e isso deu razão à criação de covers e de músicas em colaboração, como Recomeçar, que agora ouvimos no início, não agora que acabamos de ouvir, mas também Nascer, Viver, Morrer, e finalmente temos uma música da qual gosto imenso, que é tirada do último álbum dos Capitão Fausto, que vamos ouvir para o final desta rubrica sobre o Terno e o Tim Bernardes. É uma música chamada Cantiga Infinita, na qual o Tim Bernardes canta ao lado do cantor dos Capitãos Faustos.
Do Tomás.
Wallenstein. Voilà.
Obrigada, Antonin. Vamos então ouvir essa música, Cantiga Infinita, que também adoro, que ouço muito, de Capitão Fausto e Tim Bernardes. E voltamos daqui a 5 minutos para os Bom Plom.
Não vale a pena estar à espera, amor, para guardar rancor ao chegar. E quando o golpe aqui passar, sou eu e tu para o amparar. Não vai mais haver um dia em que eu me esqueça. Às vezes anoitece e eu só consigo imaginar. Quem nos criou não vai poder ficar pra me acompanhar. Disse eu sei, meu amor, há uma forma pra o futuro ser na mesma um bom lugar.
Até ver chegar a hora.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Themestadt de Fonton touche à sa fin, mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Alors, Lionel Cecilio se représente toujours à Paris pour sa pièce La Fleur au Fusil, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Vous pouvez le voir les lundis 21h, mardi 19h et samedi 15h au Théâtre Comédie Bastille jusqu'à la semaine prochaine. Et c'est la semaine de la gastronomie à Radio Alpha, à la salle Vasco de Gama, ça continue encore jusqu'à demain. Pour rappel, elle met à l'honneur Lely et sa région. C'est une expérience gastronomique unique avec des menus journaliers à partir de 49€ seulement. Retrouvez par exemple du lombo de bacalhau à la galère, arroz de marisco con lagosta, leitão de boa vista a pinto et cabritinho de ser assado. Et pour les enfants entre 5 et 12 ans, le menu est à 35€. Au Festival du Immigrant est de retour cette année, le week-end prochain, les 27 et 28 juin. La semaine prochaine, donc au Stade des Bourgards, à Herblay-sur-Seine. Une véritable rencontre de la communauté lusophone avec de la musique, de la gastronomie et des animations. Quelques noms de la line-up, Kalema, Lucenzo, Pedro Sampaio, Matias Demas, José Moyo, Santa Maria. Bref, deux jours de concerts, culture portugaise. Le rêve, finalement, avec le soutien de Radio Alpha et une émission spéciale de Themestadt de Spontan avec Liana. Et en parlant du Festival de Migrant, vous aurez l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la marque Nation Cap qui sera présente sur leur stand. Vous trouverez des casquettes brodées en édition limitée, inspirées des couleurs et de l'âme portugaise. Ça vaut le détour. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Themestadt de Spontan et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Victoria.
Merci à vous de m'avoir accueillie.
Tu nous rappelles tes réseaux sociaux pour qu'on suive tes actualités?
Et bah, suivez-moi sur mon compte Instagram, sous les jupons de l'art, tout attaché.
Est-ce que tu veux faire des bisous à des gens qui nous écoutent?
Et bah, des bisous à mes parents et à mes amis qui m'écoutent. Et voilà, démocratisons l'art contemporain pour les jeunes.
Totalement. En tout cas, n'hésite pas, si tu veux revenir un jour, tu es la bienvenue. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Et je voulais remercier tout spécialement Esteban, puisque c'est aujourd'hui son dernier jour en tant que stagiaire. Peut-être qu'il reviendra faire des rubriques.
Merci à vous, en tout cas.
Mais merci beaucoup,
tu vas
Esteban.
Nous manquer, franchement. Ouais.
Bah, merci, c'était très bien. J'ai adoré, en tout cas. Boulot,
hein. Bah, nous aussi, on a adoré.
Longue vie à Tempestad.
Merci beaucoup. Merci Esteban, tu es le bienvenu quand tu veux pour nous faire l'actu sport ou toute autre rubrique. Story or lose, on n'oublie pas. Et merci pour ces 2 mois de travail, puisque vous n'avez pas tout vu, il a beaucoup charbonné, faut se le dire quand même. Merci beaucoup. En tout cas, bon, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h pour une émission spéciale Festival de Immigrants. On se laisse tout de suite avec Is It Love de Tayla et je vous souhaite une bonne semaine à tous.
Bonne semaine, au revoir.
Bisous.
Salut.
Bisous.
Et merci encore, Esteban. Is it love if you don't cry, cry, cry? Big stepping out to seas on my shoe. Wanna taste of that passionate food. Find an option you can't pick and choose. I'm the only one that light up your mood. You already know you're nothing like your friends. You're the one not that cool, that's the truth. Got me up in your head, need a boost. Turning up like the grip on my ooh. Is it love, is it love? If you don't cry, cry, cry. Don't mean shit if I don't see tears in those eyes. Is it love, is it love? If you don't cry, cry, cry. Don't mean shit if I don't see tears in those eyes. You know how many times I heard I was cute. God just said I need a seat, I need proof. I need somebody that's gonna water my roots. Put your hands on my body like masseuse. Are you the one that's gonna ignite my fuse? And that's how I feel, light up the room. You gotta know when to be soft and how to stay hard without no excuse. You're rushing off of me, I wanna see a little more. Wanna your attention soon as I walk through the door. Show me you know the difference between beautiful and all. Yeah, gon' let it fall. Is it love, is it love? If you don't cry, cry, cry. Don't mean shit if I don't see tears in those eyes. Don't see tears. Learn my body inside out. Wanna make me see what
a death bow. Don't tell me you're too cool to come and find out. Just say you want me and it's all on. Learn my body inside out. Wanna make me see what that's about. Don't tell me you're too cool to come and find out. Just say you want me and it's all on you. Is it love, is it love? If you don't cry, 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 tell me is it love? Don't eat shit if I don't see tears in those eyes. Baby, cry. Is it love, is it love? If you don't cry, 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 don't eat shit if I don't see tears in those eyes.
O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas, e podcast do site radioalfa.net.